Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque et en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait.
Comment fait-on pour revenir à la vie quotidienne après une expérience bouleversante ? L'ancien astronaute Buzz Aldrin a écrit une autobiographie dans laquelle il raconte la difficulté qu'il a eue à revenir sur Terre, littéralement, après avoir été l'un de ceux qui ont marché sur la Lune. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que quand, vers le milieu de sa vie, plutôt dans sa jeunesse, on marche sur la Lune, c'est pas évident de savoir comment aller plus haut, hein, comme dirait Tina Arena, après ça. Dans un autre domaine, dans la vie politique française, on constate que quand un président de la République termine son mandat relativement jeune, il a du mal à passer à autre chose. On l'a vu à plusieurs reprises. Le dernier chapitre de cet évangile de Jean est une sorte d'épilogue. Et il nous place devant un moment particulier de la vie des disciples. Ils viennent de vivre le plus grand jour de l'histoire, hein, pas seulement pour eux, mais pour le monde entier. Jésus, qui est leur maître et leur ami, est sorti vivant du tombeau. Ils l'ont vu. Cette résurrection confirme qu'il est bien le Fils de Dieu, le Seigneur, celui qui a autorité sur toute chose. Ils l'ont déjà vu deux fois à Jérusalem, d'abord le dimanche de Pâques, le premier dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, et puis une semaine plus tard, et on a vu ça au cours des semaines précédentes. Et Jésus leur a parlé, et leur avait déjà à bien des reprises parlé, de la mission qu'il allait leur confier. Mais au stade où nous nous trouvons au début de ce chapitre 21, il ne les a pas encore à proprement parler envoyés en mission, mais il leur a donné rendez-vous en Galilée, et on voit ça dans les évangiles de Matthieu et de Marc. La Galilée, c'était pour la plupart de ses disciples leur région d'origine. Donc après les festivités de la fête de la Pâque à Jérusalem, eh bien ils sont retournés dans leur région d'origine, comme Jésus lui-même leur avait demandé de le faire. Mais là, en fait, ils se retrouvent un peu dans l'incertitude. Où et quand vont-ils revoir le Seigneur? Ils ne savaient pas exactement. Et cette mission dont Jésus leur avait parlé, qu'est-ce qu'elle allait être très exactement et comment est-ce que ça allait se passer concrètement? Et c'est dans cette situation d'attente incertaine que Jésus va se manifester à nouveau dans leur vie. Je vous propose de nous poser la question suivante au fil de ce texte. Comment est-ce que Jésus prépare ses disciples pour leur mission dans ce texte? Comment est-ce qu'il prépare ses disciples pour leur mission? Et on va essayer d'y répondre en quatre temps, qui seront brefs, je vous rassure. Le Seigneur qui appelle, le Seigneur qui pourvoit, le Seigneur qui pardonne, le Seigneur qui connaît. D'abord, le Seigneur qui appelle. Bon, les gars, ça y est, on est arrivé en Galilée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça semble un peu avoir été l'attitude ou la situation des disciples au moment où ils arrivent en Galilée, dans l'attente de ce mystérieux rendez-vous que Jésus leur a fixé. Et dans cette situation d'attente, Pierre a une idée qui semble plutôt naturelle. Pourquoi pas revenir, pour un temps, à son ancien métier de pêcheur? Et ses amis, qui pour la plupart d'entre eux avaient aussi été exercés en tant que pêcheurs, eh bien, décident de l'accompagner. Donc ils partent à la pêche, de nuit, c'était semble-t-il le moment le plus propice pour pêcher, mais ils n'attrapent rien. Et au petit matin, à l'aube, semble-t-il, un homme les interpelle depuis le rivage. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. Les enfants, on pourrait traduire presque les gars, n'avez-vous rien à manger? Réponse, non, on n'a rien attrapé. Jetez le filet de l'autre côté. Et là, Pierre s'exécute et le filet regorge de poissons. Et alors, celui qui a été identifié tout au long de cet évangile comme le disciple que Jésus aimait, d'une façon un peu mystérieuse de parler, et celui d'ailleurs qui va se révéler être l'auteur de ces lignes, va reconnaître Jésus, verset 7, « C'est le Seigneur !» Et Pierre, entendant cela, se précipite pour aller retrouver Jésus sur la plage. Alors, quand on lit cet épisode et qu'on connaît un petit peu les évangiles, on peut avoir une impression de déjà-vu. Et de fait, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, Jésus va à la rencontre d'un groupe d'hommes qui reviennent de la pêche. Il se trouve que ces hommes, ce jour-là, c'était à peu près les mêmes, en tout cas pour plusieurs d'entre eux, que ceux qu'on retrouve dans ce récit. Des hommes donc qui reviennent de la pêche et qui n'ont rien attrapé. Et il leur propose de jeter leur filet un peu plus loin. Et là, il y a tellement de poissons que les filets commencent à se rompre. Être surpris par la ressemblance entre ces deux épisodes. Mais en fait, ce n'est pas une coïncidence. En lisant les récits de la résurrection, une des choses, et on en a déjà parlé d'ailleurs, une des choses très étonnantes, c'est que Jésus, mystérieusement, n'est pas tout de suite facile à reconnaître. Dans les premiers instants, en tout cas, il y a comme une hésitation. Alors, dû, entre autres, certainement au caractère tout simplement stupéfiant de voir celui qu'on a vu mourir vivant devant soi. Mais il y a sans doute plus que cela. C'est un élément qu'on retrouve dans les trois récits complets de la résurrection que nous avons, donc Matthieu, Luc et Jean. C'est comme s'il y avait chez Jésus ressuscité quelque chose d'insaisissable, une nouveauté de vie qu'aucun des évangélistes ne parvient vraiment à décrire ou à expliquer. Mais dans chacune de ces situations, Jésus prononce une parole ou fait un geste et ça va ouvrir les yeux de ses disciples. C'est bien lui. Et c'est ce qu'on voit ici à nouveau. En fait, Jésus sait très bien ce qu'il fait. Il est parfaitement conscient de l'aspect de « flashback » entre guillemets de cet incident, cet épisode. Il veut précisément que les disciples se rappellent ce qui était arrivé la dernière fois qu'il leur avait dit de jeter leur filet un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là ? C'était le jour où pour la première fois Jésus les avait appelés à sa suite. C'était le jour où pour la première fois il leur avait parlé de la mission qu'il allait leur confier. Et ce jour-là, Pierre, voyant les filets regorgeant de poissons, s'était jeté aux pieds de Jésus. « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et Jésus lui avait répondu « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Luc 5, verset 10. Et soit dit en passant, l'assonance parfaite entre pêcheur et pêcheur, c'est juste en français que ça marche comme ça. Donc ça rend les choses un peu étonnantes, mais voilà, dans à peu près toutes les autres langues, ce n'est pas du tout le même mot. Est-ce un hasard si, en cette matinée, quelques années plus tard, quelques années après ce premier incident, ce premier épisode, Jésus intervient de la même façon? Certainement pas. Jésus est bien venu retrouver les disciples en Galilée, comme il leur avait dit. Il s'apprête à les envoyer en mission. Il le fera de façon plus formelle lors d'une autre rencontre un peu plus tard dans la même région, dont nous parle Matthieu à la fin de son évangile. Donc ce n'est pas du tout par hasard que Jésus opère ici une sorte de flashback. En fait, le moment est venu pour ses disciples de devenir des pêcheurs d'hommes. On peut noter au passage qu'une fois de plus, Jésus vient rencontrer ses disciples dans la banalité de leur vie quotidienne. Comme à bien d'autres reprises dans les évangiles. Et même si notre situation n'est pas exactement la même que celle des premiers disciples, eh bien nous avons ici le rappel qu'il ne faut pas attendre une situation future où on sera en situation de suivre Jésus, disponible pour ça, alors que pour l'instant on ne l'est pas. C'est un peu une tendance qu'on peut avoir de se dire « je veux suivre Jésus, on est bien d'accord, mais d'abord il faudrait quand même que je règle ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie familiale, et que j'ai un peu plus de temps, comme si le jour viendra où on aura plus de temps, ça je crois que c'est un mythe. » Désolé, hein, mais je m'en rends compte de plus en plus. Mais Jésus nous appelle maintenant à être partenaire de sa mission, aujourd'hui. Et il n'a pas attendu que les disciples soient rangés, et bien rangés, nettoyés leur bateau, pris quelques jours de RTT. Il les a appelés alors qu'ils étaient encore dans le bateau. Et la mission à laquelle Jésus va les appeler est une mission périlleuse, redoutable, et la suite du texte le confirmera. Mais avant de les envoyer, il veut leur montrer qu'il est aussi celui qui pourvoit à tous leurs besoins. Le Seigneur qui pourvoit, deuxièmement. Quand j'étais petit, mon grand-père, du côté de ma mère, nous emmenait sur son bateau, parfois, en Bretagne, pour aller faire de la pêche à la traîne. Et mon souvenir de ces excursions, c'est que c'était très sympa, mais qu'en général, on n'attrapait rien. De temps en temps, il y avait des exceptions, hein, mais globalement, on rentrait et puis bon, bah, on avait passé quelques heures entre nous et c'était sympathique, mais on n'avait rien attrapé. Et je trouvais ça, j'avoue, un petit peu frustrant. J'ai jamais osé l'avouer à mon grand-père. Mais dans le cas de Pierre et de ses amis, on n'est pas dans un cadre de pêche récréative. La pêche, c'était un moyen de subsistance. Et après toute une nuit de travail, et bien comme ils répondent à Jésus, ils n'ont rien à manger. On peut dire que le retour des disciples à leur ancien métier est un flop total. Mais Jésus va transformer cette expérience de stérilité en une expérience d'abondance. Verset 6, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer. Tant il y avait de poissons. Alors, est-ce que le narrateur nous raconte ceci simplement pour qu'on se dise « Waouh, quel exploit, qu'est-ce qu'il est fort ce Jésus ?» Non. Alors, c'est vrai qu'on est appelé à être émerveillé par ce que Jésus peut faire, mais bien plus que cela, comme dans tous les autres miracles des évangiles, celui-ci est porteur de sens. Et il l'est d'autant plus quand on considère la suite du récit. Jésus les invite à apporter des poissons, 153 très exactement, Jean les a comptés, semble-t-il. Alors, au cours de 20 siècles d'histoire de l'Église, des pages et des pages et des pages ont été écrites pour essayer de décrypter le symbolisme éventuel derrière ce chiffre de 153. Et alors, on a trouvé des choses extraordinaires. des idées vraiment très très créatives. Ça représente 100, ça représente les juifs, 50, ça représente les non-juifs, et puis 3, ça représente la Trinité. Voilà, ce genre de choses. En fait, vraisemblablement, il ne faut pas chercher comme ça un sens caché, mais tout simplement, c'est une... Et on a déjà vu ça dans l'évangile de Jean, une petite précision du narrateur pour montrer qu'il était là, pour nous dire, voilà, j'authentifie mon récit, j'étais là, il y avait 153 poissons. Tout simplement. Voilà. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il leur sert un petit déjeuner, il a préparé un feu, il a déjà d'ailleurs du poisson et du pain, et il leur demande simplement d'apporter ce qu'ils ont pêché. Et les disciples n'ont plus qu'à mettre les pieds sur le sable et se servir. Alors à nouveau, on constate que l'épisode est empreint de mystère. Verset 12, « Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. » Un peu étonnant comme façon de dire les choses. Mais on l'a déjà dit, il y a quelque chose d'insaisissable et de redoutable chez le ressuscité. On ne va pas simplement lui faire la bise et lui dire que c'est sympa de le revoir. Les disciples savent au fond d'eux, même s'ils n'ont peut-être pas les mots pour l'exprimer à ce moment-là, que le monde nouveau se superpose ici au monde présent, que celui qui se tient devant eux est celui qui a vaincu la mort, qui a inauguré une nouvelle forme de vie pour laquelle ils n'ont pas de catégorie conceptuelle. Et donc, ils s'efforcent de décrire ce qui s'est passé. On savait que c'était lui, et en même temps, il y avait quelque chose de complètement nouveau, mais en même temps, c'était bien lui. Et on voit ça dans les quatre évangiles, en particulier Matthieu, Luc et Jean. Et pourtant, Jésus est là, attentif à leurs moindres besoins. Et en servant ce petit déjeuner, Jésus fait plus que simplement faire du bien à ses disciples. Il y a ça aussi. Mais également, il leur rappelle implicitement qu'il sera présent à côté d'eux tout au long de cette mission qui les attend. Il prendra soin d'eux. Et lorsqu'ils se sentiront vidés, frustrés, que leurs efforts paraîtront stériles, bien, ils sauront qu'ils peuvent se tourner vers Jésus, qui leur donnera en abondance et même en surabondance tout ce dont ils ont besoin pour continuer. Le Seigneur de l'univers est aussi celui qui a servi le petit déjeuner sur la plage à cet homme affamé. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, dans aucun autre système de pensée, aucun autre système religieux, vous ne trouvez un Dieu qui sert le petit déjeuner. Et alors que les disciples s'apprêtent à entreprendre une mission difficile, où la souffrance et la persécution sont au rendez-vous, ils ont besoin de savoir à nouveau qui est ce Dieu qu'ils s'apprêtent à suivre, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui prend soin, ce Dieu qui s'est pleinement et parfaitement révélé en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons besoin de savoir qui est Dieu. Jésus est le Seigneur qui pourvoit. Et si nous voulons suivre Jésus, nous devons savoir cela. Les disciples avaient besoin d'être rassurés, d'être appelés d'abord, d'être rassurés sur le fait que Jésus est celui qui pourvoit. Mais après avoir tous, d'une façon ou d'une autre, abandonné Jésus, et Pierre en particulier, lors de son arrestation, ils avaient aussi besoin du pardon de Jésus. Et c'est notre troisième point, le Seigneur qui pardonne. Dans un de ses titres les plus connus, « À nos actes manqués », Jean-Jacques Goldman évoque nos échecs, petits ou grands, ces moments qu'on aimerait bien effacer de notre mémoire. Et ce qui me frappe dans cette chanson, c'est que on n'apprend jamais ce qu'il faut faire de ces actes manqués. En fait, c'est juste une sorte de liste, voilà, à nos actes manqués, à nos actes manqués. Mais qu'est-ce qu'on doit en faire finalement de ces échecs? Est-ce qu'il faut les oublier? Est-ce qu'il faut les accepter? Est-ce qu'il faut les sublimer? On ne le saura jamais. Et en fait, la question est pertinente. Que faire de nos échecs? L'échec de Pierre était particulièrement grave. Il a renié son ami au cœur de sa plus terrible épreuve, alors que la mort se profilait à l'horizon. Il l'a renié non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois. Et pourtant, il lui avait promis, quelques heures seulement auparavant, qu'il serait fidèle jusqu'au bout, que jamais il ne l'abandonnerait. Mais plus grave encore, celui qu'il a renié est le Messie, que Pierre avait d'ailleurs reconnu comme tel, son sauveur, celui qui allait à la croix, précisément pour que Pierre puisse connaître le pardon de Dieu. Comment est-ce qu'on peut surmonter une telle faute? Par une longue randonnée sur le chemin de Compostelle, un séjour au Népal peut-être. Pierre ne trouvera pas en lui les ressources pour se remettre de ce terrible échec. Et nous ne trouverons pas en nous-mêmes les ressources pour nous remettre de nos échecs. C'est Jésus qui va réhabiliter Pierre. Et il le fait de façon saisissante et magnifique. On aurait pu imaginer que Jésus commence par mettre l'accent sur la faute et sur la douleur qu'il avait subie. « Tu m'as fait mal, Pierre, tu m'as fait très très mal, et c'est dur, mais j'ai choisi de te pardonner. » Il aurait eu le droit de dire ça, ça aurait déjà été magnifique de le pardonner après ce que Pierre lui a fait. Mais au lieu de cela, il choisit de demander à Pierre à 3 reprises, « M'aimes-tu ?» À combien de reprises ? À 3 reprises. Et ainsi, subtilement, mais sans aucun doute, il amène Pierre à affirmer 3 fois son amour pour lui, 3 déclarations de fidélité et d'amour qui annulent les 3 reniements passés. Pierre a renié Jésus alors qu'il allait vers la croix. Mais Jésus pardonne Pierre parce qu'il est allé jusqu'à la croix, où il a subi à notre place, pas seulement celle de Pierre, mais la nôtre aussi, la condamnation de Dieu pour nos fautes, pour toutes nos ignorances, nos indifférences, toutes nos transgressions. Sur cette croix, il a effacé la faute de Pierre. Et le pardon que Jésus offre à Pierre va plus loin qu'un simple effacement de l'offense. C'est un pardon qui le remet sur pied, qui le réhabilite, qui le rétablit dans sa mission. Et là encore, il y a une triple expression de confiance. Verset 15, « Nourris mes agneaux », verset 16, « Prends soin de mes brebis », verset 17, « Nourris mes brebis ». Mais cette réhabilitation s'accompagne d'une prédiction sombre. Pierre devra un jour payer de sa vie sa fidélité à Jésus. Au verset 18 et 19, le narrateur utilise un vocabulaire qui peut nous sembler un peu mystérieux, mais à l'époque qui très clairement évoquait la crucifixion, étendre ses bras, être attaché, lié, etc. Un jour, Pierre connaîtra lui aussi cette terrible épreuve. Et la tradition semble confirmer que Pierre a bien été crucifié lui aussi. Mais cette épreuve ne sera pas la fin. Elle contribuera, nous dit Jean, à révéler la gloire de Dieu, verset 19. Or, la gloire de Dieu dans toute la Bible, c'est ce qui, en dernier lieu, un jour, balayera le mal et la souffrance définitivement. Le pardon accordé par Jésus n'est pas léger. Il n'est pas léger pour Jésus. Il n'est pas léger pour Pierre. Mais c'est un pardon qui rétablit définitivement la relation et la confiance. Et à plusieurs reprises, la Bible nous invite, nous, qui sommes chrétiens, à exercer dans nos propres vies un pardon qui reflète celui de Dieu à notre égard. L'apôtre Paul, par exemple, écrit ceci dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Et si nous nous inspirions de cette extraordinaire réhabilitation de Pierre, après une offense pourtant très grave, et si nous nous inspirions de ce pardon qui ne se contente pas de simplement mettre derrière soi l'offense, c'est déjà essentiel, mais qui remet l'autre sur pied, qui élève, qui choisit de faire à nouveau confiance. Et que se passerait-il si les disciples de Jésus étaient déterminés à vivre cette réalité dans leurs relations, au travail, dans la famille, dans l'Église? Il y a des gens qui, par leur travail, et c'est normal, scrutent inlassablement les occasions de vendre un produit. Il faut chercher toutes les occasions de vendre un produit, ou bien peut-être de proposer une intervention ou une réparation. Et si, au nom de cette grâce que Jésus nous a accordée, nous étions, nous, disciples de Jésus, à l'affût d'occasions de pardonner ou de faciliter le pardon, à l'affût d'occasions de paix et de réconciliation, de réhabilitation, non seulement pour les conflits qui nous concernent, et ça implique aussi d'être prêt à demander pardon, bien sûr, non seulement pour les conflits qui nous concernent, ça c'est essentiel, mais aussi peut-être les conflits dont nous sommes témoins, là encore, au travail, dans les études, dans notre famille, peut-être même dans les transports. Et Jésus se révèle une fois de plus comme le Seigneur qui pardonne. Mais dans un dernier temps, nous allons voir qu'il est aussi le Seigneur qui nous connaît parfaitement et qui a des projets distincts sur mesure pour chacun d'entre nous, le Seigneur qui connaît. Récemment, je lisais le témoignage d'un pasteur qui évoque l'un de ses anciens camarades de la faculté de théologie. Les deux hommes s'entendaient très bien, sont restés très liés. Ils ont chacun trouvé leur place dans le travail pastoral, dans le ministère. Mais l'un des deux a une personnalité particulièrement charismatique. C'est un enseignant exceptionnel. Et assez vite, il est devenu un pasteur influent, admiré par beaucoup. Tandis que l'autre est resté le fidèle, mais plus discret, pasteur d'une plus petite église. Et ce deuxième homme, qui écrivait ce témoignage, explique comment il a lutté pendant des années avec la jalousie, avant d'en être complètement libéré, tout d'un coup, quand il a compris qu'il était à sa place et que Dieu lui avait confié un autre ministère, tout simplement, tout aussi précieux, tout aussi décisif, simplement moins visible. Combien il est tentant de se comparer, en général dans la vie. On passe tellement de temps à se comparer les uns aux autres. Et même quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, et dans un sens, c'est triste. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre, alors pourquoi se comparer? Mais c'est tellement naturel. Pierre et Jean avaient tous les deux eu une relation très proche avec Jésus. Ils ont vécu des moments très forts ensemble. Ils étaient là ensemble lors de la transfiguration de Jésus, lorsque Jésus, dans une vision particulière, est apparu sur la montagne à trois de ses disciples, donc Pierre, Jacques et Jean. Et c'était comme une anticipation de ce qui allait venir avec sa résurrection. Ils étaient tous les deux là aussi à un autre moment, par exemple, quand la petite fille de Jaïrus a été ramenée à la vie. Ils étaient là également devant le tombeau vide. On se souvient qu'on a vu ça il y a quelques semaines. Ils ont couru ensemble pour aller trouver ce tombeau vide. Et les voilà maintenant tous les deux sur la plage avec le ressuscité. Vraisemblablement, il y a quelques indices dans le récit que Pierre et Jésus marchent ensemble et Jean est un petit peu derrière et il entend ce qu'ils disent. Pierre vient d'être réhabilité par Jésus et il se voit confier une mission dangereuse et qui va aboutir à sa mort en martyr. Donc il a largement de quoi faire avec les projets de Jésus pour lui. Et même si on y pense rarement, il faut comprendre qu'il a dû vivre plusieurs décennies ensuite avec cette prédiction de Jésus qu'il allait un jour mourir crucifié. Pas évident, hein, de vivre avec ça pendant des années et des années. Et Pierre a continué à avancer. Mais ici, il ne peut pas s'empêcher de poser à Jésus cette question tellement humaine. On peut tous s'identifier. Et lui, que lui arrivera-t-il, verset 21? C'est peu probable que Pierre pose la question par pure curiosité. Tiens, et lui d'ailleurs, il va lui arriver quoi? C'est peu probable que ce soit ça. Plus probablement, il réagit à la révélation que Jésus vient de lui apporter. Un jour, il va payer de sa vie sa fidélité à Jésus. Et on peut penser qu'il se demande si Jean devra lui aussi passer par une telle épreuve ou s'il sera épargné de cela. Et là, la réponse de Jésus est nette. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi, verset 22. Pierre, ça ne te regarde pas. Pierre va devoir vivre une épreuve terrible. Et Jean? Eh bien, Jésus sait les projets qu'il a pour lui. Mais ce n'est pas forcément les mêmes. Il n'aura pas forcément à vivre cette épreuve. Et c'est le sens de cette petite phrase du verset 22. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Comme le narrateur le clarifie lui-même, Jésus n'a pas dit que Jean vivrait jusqu'à son retour, mais il rappelle à Pierre que ce n'est pas à lui de décider de ses projets pour un autre disciple. On a des indices historiques qui semblent nous dire que Jean a eu une vie, entre guillemets, plus facile que celle de Pierre. Il a vécu longtemps, il a écrit son évangile et ses lettres vraisemblablement lorsqu'il était très âgé. Il connaîtra l'exil. Donc c'est pas rien quand même, et certainement, comme toute la première génération chrétienne, bien des souffrances. Mais il ne semble pas avoir été persécuté de manière aussi violente que Pierre ou Paul, par exemple, et n'a pas connu la mort violente qu'ils ont connue. Pourquoi? Dieu seul le sait. Mais une indication nous est donnée quand même au verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Jésus a voulu que Jean soit l'un de ses interprètes, l'un de ceux qui témoigneraient par la plume et l'encre de ce qu'il a vécu, de qui est Jésus. Et 20 siècles plus tard, on est encore en train de lire son livre et d'en parler. Pierre a été appelé à un ministère public très exposé, certainement exaltant par certains aspects, plein de responsabilités mais aussi plein de souffrances. Jean, semble-t-il, a été appelé à un ministère plus discret, peut-être plus solitaire, mais tout aussi précieux à ses yeux. Dieu a des projets différents pour chacun d'entre nous. Mais tous ces projets ont le même aboutissement, la vie en abondance. Cette vie radicalement nouvelle que Jésus a inaugurée en sortant du tombeau. Et à notre tentation de nous comparer, Jésus répond « Toi, suis-moi ». Il nous connaît parfaitement, il connaît nos qualités, nos défauts, nos joies, nos peines, il connaît nos doutes, nos difficultés. Rien de cela ne lui est étranger. Alors intéressons-nous au projet de Dieu pour les autres, oui, mais pour nous en réjouir, pour prier, pas pour en être jaloux, pas pour nous comparer. Et ensemble, suivons notre Seigneur sur ce chemin qui conduit à la vie. Je vous invite à prier. Nous te remercions, notre Père, parce qu'en Jésus-Christ, tu t'es pleinement révélé. Et tout au long de cet évangile de Jean que nous terminons ce soir, tu nous montres que celui qui rencontre Jésus te rencontre toi. Que si l'on veut connaître le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu souverain, il faut venir à Jésus. Merci pour ce rappel et merci pour ce que tu révèles de toi en lui. Ce Dieu qui appelle, ce Dieu qui pourvoit très simplement, ce Dieu qui pardonne et qui est toujours prêt à pardonner même nos reniements les plus graves, ce Dieu qui connaît parfaitement chacun d'entre nous. Et Seigneur, alors que nous voulons suivre Jésus, donne-nous de pouvoir le faire avec confiance en qui il est, en nous rappelant que les projets qu'il a, que tu as pour nous, ne dépendent pas de notre capacité à les mener à bien, mais de ta fidélité et de ta détermination à accomplir ce que tu as promis. Au nom de Jésus, amen.